Radio Grenouille.
Et voici une nouvelle grande tchatche, l'émission politique du Ravi sur la Grenouille. Au micro, Michel Guéraud, du journal Pas Pareil, qui ne baisse jamais les bras. Les bras levés, mais les poches pas assez remplies. Le Ravi, pour ne pas devenir un fantôme, a lancé un SOS et une levée de fonds pour vivre et cesser de survivre. L'avenir de l'unique journal satirique régional et celui de son association, la tchatche, avec ses actions citoyennes, sont sur le tapis. Rien ne va plus, à vous de jouer, il est encore temps. 53 000 euros ont déjà été récoltés, rejoignez vite les 500 premiers donateurs attachés à la presse Pas Pareil. Toutes les infos sont sur leravi.org. Tout de suite, c'est d'un autre compte à rebours dont nous allons parler. Dans 15 jours, le 12 juin, on vote pour les élections législatives. Avec nous, dans ce studio, un candidat, Hendrik Davy, un insoumis investi à Marseille par la NUP, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Mais avant de grandement tchatcher, présentons notre invité. 1077 voix d'écart. Il s'en est fallu de peu, Hendrik Davy, que vous deveniez député insoumis de Marseille. C'était il y a 5 ans, en 2007, dans la 5e circonscription. Vous êtes alors battu par la candidate macroniste Cathy Racombouzon. Votre duel, celui de deux inconnus dans le paysage politique local, avait cristallisé les bouleversements politiques à l'œuvre. Les 12 et 19 juin prochains, ce sera l'heure du match retour. Vous voilà investi par la NUP, la Nouvelle Union Populaire Écologique, j'arrive pas à le dire comme tout le monde, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. La grande alliance inattendue, arc-en-ciel, fédérant autour de l'Union Populaire conduite par Mélenchon, les Insoumis, mais aussi cette fois-ci Europe Écologie, le PCF, le PS, etc. Ça tombe bien parce que l'écologie et le social, c'est votre ADN. Votre boulot, c'est d'étudier la vulnérabilité et l'adaptation des forêts méditerranéennes au changement climatique. Sujet brûlant alors que la sécheresse menace déjà dès ce printemps notre région. Vous êtes directeur de recherche à Avignon, à l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Après une thèse à Paris, vous avez aussi obtenu en Provence un master de philosophie des sciences. Mais vous êtes également un syndicaliste actif, porte-parole de la CGT-INRA, membre de la commission exécutive CGT de l'Union fédérale des syndicats de l'État. L'engagement chez vous, c'est une histoire familiale, issue des classes moyennes, intellectuelles, mère institutrice, père ingénieur du bâtiment, membre du PC. Mobilisé contre les guerres en Afghanistan et en Irak, vous menez de près les batailles altermondialistes en participant aux forums mondiaux de Gênes à Athènes, en passant par Evian, Paris et Londres. Vous adhérez à 26 ans à la LCR de Besancenot, puis au NPA, puis au Front de Gauche, au sein d'ensembles composantes de la France insoumise. Sans oublier un bref passage chez les Verts. Au municipal marseillaise, en 2014 déjà, vous figuriez en bonne place sur la liste conduite par le communiste Jean-Marc Coppola. Bref, vous êtes à vous tout seul une union des gauches et des écologistes. Vous avez aussi rédigé, dans l'avenir en commun, le programme de l'Union populaire, le chapitre sur la forêt bien entendu, mais aussi celui sur l'enseignement supérieur et la recherche, ainsi que celui sur les savoirs pour la bifurcation écologique. Mais l'heure n'est plus à la théorie, vous devez prouver, cette fois-ci, que vous pouvez faire bifurquer une circonscription symbolique détenue par la majorité Macron. Chaud, 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 c'est aussi chaud que le climat. Peut-être une réaction?
Bonjour.
Des bêtises déjà ou pas dans ce portrait?
Non, 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 il n'y a aucune bêtise. Merci pour le portrait, il est complet.
D'accord. Donc, chaud
Chaud, non, on est, il fait chaud, oui, ça, c'est pas bon. Un mois de mai aussi chaud, et puis surtout en Inde, hein, c'est assez terrible ce qui s'y passe. Par contre, pour ce qui est de la politique, non, chaud, sur la circonscription, on a bon espoir de gagner. On était effectivement, vous l'avez rappelé, Camille voix en 2017. Donc non, on a bon espoir de gagner, mais une campagne, c'est toujours une campagne, et tant qu'elle est pas finie, ben, il faut la mener, et puis il faut convaincre les électeurs un à un. Et vraiment, la menace pour nous, c'est l'abstention de nos électeurs. Et voilà, parce que c'est le problème de la version du climat, la version du calendrier, et avec législative après la présidentielle, depuis que c'est comme ça, bah, celui qui gagne mobilise son électorat, et celui qui perd, bah, l'électorat se démobilise.
Il y a 5 ans, justement, l'abstention, elle avait été très très élevée, je crois que c'était 60% à peu près, hein, sur, oui, la circonscription.
Et on a regardé ça de manière assez précise récemment. En gros, Cathy Racombouzon avait conservé le nombre de votants de Emmanuel Macron au second tour. Et en ce qui concerne la France insoumise, on avait perdu 50% de notre électorat. Donc on voit bien que l'enjeu, c'est de mobiliser nos électeurs en leur expliquant qu'effectivement, c'est une élection importante, d'autant plus importante qu'il y a une chance pour qu'on ait une autre majorité et qu'on ait une cohabitation, et que Macron ne puisse pas appliquer son programme antisocial et anti-écologique.
Alors on va venir à tout ça. Peut-être avant de venir un petit peu au local, même si un député, on va en parler, hein, c'est à la fois quelqu'un qui est inscrit localement, mais aussi qui a un regard sur la politique nationale, qui fait les lois. Le nouveau gouvernement a été nommé. Alors on a bien compris que vous espérez que ce sera très provisoire. Il n'empêche, peut-être quelques mots, Elisabeth Borne.
Elisabeth Borne, c'est un peu comme Véran, c'est la caution de une caution de gauche, mais alors les électeurs savent même pas qu'elle est passée par les cabinets de la gauche. En réalité, elle a mené une politique relativement antisociale quand elle a été ministre, et notamment sur le chômage, hein, on s'en souvient tous. Elle a participé à la privatisation de la SNCF ou des modifications du statut de la RATP. Donc foncièrement, c'est la même politique qui est assez ancienne, hélas, hein, politique de réforme libérale qui consiste à marchandiser nos services publics. Donc il n'y a pas de surprise pour Elisabeth Borne, il n'y a pas de surprise aussi pour de nombreux ministres qui ont été reconduits, et c'est quand même un gouvernement très à droite, avec quelques ministres comme Pap Ndiaye, qui effectivement sont là, à mon avis, pour... c'est l'arbre qui masque la forêt.
Un ministre de l'éducation et de la jeunesse, déjà... confronté à des réactions assez racistes d'ailleurs, hein, suite à sa nomination.
Oui, bon, les réactions sont tout à fait inacceptables, hein. Le racisme dont il fait l'objet et dont beaucoup de nos compatriotes font l'objet dès qu'ils entrent en politique ou dès qu'ils sont donc au vu dans les médias. Donc ça, c'est tout à fait inacceptable, d'autant plus que c'est une personnalité intéressante qui a écrit sur la condition noire en France. Après, on comprend pas très bien ce qu'il vient faire là dans ce gouvernement, et un peu comme Hulot en 2017, on a peur qu'il soit finalement dans une situation qui lui mène lui-même à l'impasse.
Alors, une nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous en parle parce que c'est quand même un de vos créneaux, Sylvie Retailleau.
Oui, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et ça a aussi été la présidente de Saclay. Donc Saclay, c'est quand même une immense machine à détruire l'enseignement supérieur, parce que c'est ces nouvelles constructions qu'ils nous ont imaginées qui finalement cassent le statut de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, parce que c'est des grands établissements qui vont de dérogation en dérogation petit à petit démanteler les structures habituelles. Alors ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'ils ouvrent la possibilité de l'augmentation massive des frais d'inscription pour les étudiants et de la mise en concurrence encore plus forte et encore plus féroce pour les enseignants et pour les étudiants. Donc c'est ce contre quoi je me bats maintenant depuis près de 20 ans en tant que syndicaliste, cette recherche marchandisée et puis qui finalement devient de plus en plus difficile d'accès pour le plus grand nombre. Donc c'est pas une bonne nouvelle non plus.
Alors il y a une ministre de la transition énergétique, c'est comme ça que son ministère est nommé. Ancienne secrétaire d'État chargée de l'industrie, on n'avait pas trop repéré, Agnès Pannier-Runacher.
J'avoue que je n'ai pas d'avis sur elle, je ne la connais pas.
Oui, d'accord. Et puis bon, quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment, Damien Abad, ministre des Solidarités, visé par deux accusations de viol, à peine nommé.
Il devrait démissionner tout de suite.
Pour vous, oui. Là... Même si, il n'y a pas d'affaire en justice en cours.
Non, il n'y a pas d'affaire en justice en cours, mais comme pour Tahabouaf, en fait, on a pensé que c'était nécessaire, une fois que les accusations étaient faites, qu'il ne soit pas candidat. De la même façon, j'ai lu attentivement l'enquête de Mediapart. C'est pas une petite enquête. Les deux accusations sont extrêmement graves. Une collaboratrice qui se souvient plus de ce qui s'est passé après avoir bu un verre de champagne et qui se retrouve le lendemain chez lui. C'est quand même très 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 surprenant, et puis beaucoup de témoignages qui concordent, hein. Son mari son ex-mari qui raconte que effectivement elle a subi quelque chose de pas normal, puisque elle a pleuré toute la journée le lendemain. Tout ça, elle l'a livré très courageusement. Elle a aussi expliqué que c'était grâce à MeToo. Et ça, moi, je pense que c'est très important pour les femmes. Ce fait que maintenant, quand il y a des agresseurs, des violeurs ou du harcèlement sexuel, les femmes prennent la parole et dénoncent ceux qui les agressent. Et ça, je pense que c'est important. Donc, ils devraient démissionner, au moins pour pouvoir se défendre, hein, parce que de toute façon, c'est ce qu'on a toujours dit. C'est-à-dire que après, effectivement, il va falloir qu'ils se défendent. Et là, il y a une présomption d'innocence. Mais ce qui a changé avec MeToo, et il faut vraiment le faire prendre conscience, notamment aux hommes, hein, c'est qu'il n'y a plus on ne met plus en doute a priori la parole des femmes. Et ça, c'est important. Voilà.
Alors, autre affaire, pas même endroit, pas la même ampleur, mais qui pose des questions. Une enquête de nos confrères de Mars Actu qui vise Claire Pitola, une députée sortante de LRM, donc En Marche, marseillaise. Et donc, de fortes plaintes de ses assistants parlementaires au niveau de la façon de gérer en fait son personnel, si on peut l'appeler comme ça, et aussi un usage très particulier des notes de frais. Voilà.
Alors, j'ai lu aussi l'article. Là, je suis bon. Bien sûr que je pense que évidemment il y a des choses qui sont tout à fait inacceptables. Mais néanmoins, je pense que la politique ne doit pas en permanence regarder dans le détail. Voilà, si elle a fait des choses qui sont répréhensibles, il faut que ça soit sanctionné. Mais bon, pour ce qui est des frais, en réalité, elle les a remboursés. Bon, c'était des histoires de frais de taxi. Voilà. Donc bon, par rapport à ses vacances, effectivement, c'était pas normal. L'Assemblée nationale lui a signé. Que c'était pas normal et elle a remboursé. Bien sûr que ça paraît surprenant qu'elle ait fait ça, mais néanmoins c'est pas un scandale absolu. Ça arrive à tous les Français de faire des erreurs. Le problème des attachés parlementaires est plus effectivement préoccupant. Elle les a collectionnés hein, dans l'article. Je sais plus le nombre. Alors c'est
non 17 je crois. Ah, 17, total, oui, 17, dont une 17. Dizaine qui se plaignent.
17 dont une dizaine qui se plaignent, c'est pas normal, c'est pas la seule. Il y a un gros souci, et je pense que c'est collectivement qu'on doit prendre ça en compte. Il y a un gros souci au niveau des attachés parlementaires qui sont trop souvent en fait harcelés moralement, qui font beaucoup trop d'heures. Il y a même un syndicat des attachés parlementaires. Donc je pense que moi, si je suis élu, en tout cas, je serai attentif avec les attachés parlementaires que j'aurai, mais aussi je pense que j'essaierai de me battre pour qu'ils aient des meilleures conditions de travail collectivement.
C'est une alerte pour vous parce que Claire Pitola, comme beaucoup hein, de ces nouveaux nouvelle députée de En Marche n'était pas issue d'un parti classique, n'avait jamais eu de mandat auparavant. Vous avez un parcours militant plus classique, mais vous n'avez jamais eu de mandat. Il y avait des espoirs de renouvellement des pratiques liés justement à cette fraîcheur. Et puis on se rend compte que peut-être c'est pas... Il y a des systèmes, il y a des mécanismes qui font que finalement les gens se comportent comme ils se comportent. Est-ce que vous, en tant que éventuellement futur député, dans 3 semaines, vous vous posez ce type de questions, enfin, de la responsabilité que ça peut vouloir dire d'être député, comment on se comporte en tant que député?
Oui, moi je me la pose bien évidemment, mais néanmoins, sur ces questions-là, je suis toujours pour penser que c'est organisé socialement. C'est-à-dire qu'en réalité, quand il y a une profession qui souffre d'exploitation ou d'oppression, c'est parce que socialement c'est organisé et on retrouve en fait ce type de comportement dans tous les partis, dans toutes les forces politiques. Donc on va pas résoudre ça uniquement avec une éthique individuelle. J'y crois très peu à ce genre de choses. Évidemment, individuellement, et c'est ce qui est mon cas, c'est-à-dire quand on a conscience des conditions de travail des autres et qu'on veut éviter qu'elles se dégradent et qu'on a conscience des différentes oppressions, le racisme, le sexisme, on évite dans son comportement de promouvoir ce genre de choses, mais en réalité, si on veut globalement avancer, c'est avoir des systèmes qui évitent ça. Et des systèmes qui évitent ça, c'est des règles, c'est de la formation pour les députés, à mon avis. Voilà, mais ça s'organise socialement, c'est pas juste une éthique individuelle. Et la preuve, comme vous l'avez remarqué, c'est pas une histoire de trajectoire, parce qu'en fait on a des politiciens professionnels qui ont eu ce type de comportement, et on a des citoyens plus nouveaux dans la politique qui peuvent avoir des comportements qui sont pas éthiques. Donc voilà, moi je pense qu'il faut le travailler collectivement et trouver les solutions.
Alors, la NUP, ce logo imprononçable, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, c'est nouveau. Alors, nouveau, ça, on démarre. C'est vraiment nouveau, là, cet attelage. Oui. Il se passe quelque chose de nouveau.
Non, il se passe vraiment quelque chose de nouveau. En réalité, la gauche est divisée. Elle a toujours été divisée, mais elle s'est fracturée à partir du traité constitutionnel, d'autant plus fortement parce qu'il y a eu ceux qui ont appelé à voter oui, ceux qui ont appelé à voter non. Et ça a créé une ligne de fracture assez forte entre ceux qui étaient plutôt pour adapter le capitalisme et ceux qui étaient plutôt pour s'affronter au néolibéralisme et proposer une société d'entraide et soutenable écologiquement, y compris en s'affrontant aux puissances d'argent. Il y avait ces deux gauches-là. Il y a d'autres clivages, un clivage sur le racisme, des clivages sur l'écologie aussi, mais ce qui est en train de se résorber aujourd'hui avec la formation de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, c'est finalement autour d'un centre de gravité plutôt avec une politique de rupture, on a réussi à rassembler tout le monde. C'est la première fois. La plupart du temps, quand on avait l'union de la gauche, c'était plutôt finalement le parti le moins en rupture, enfin moins en rupture avec le système qui prédominait, hein, notamment avec du temps de François Mitterrand. Là, c'est le contraire, et je pense que c'est nouveau, et je pense que c'est lié à la situation grave, on en reparlera, de crise sociale, de crise écologique, et surtout de crise démocratique, qui fait que on peut pas résoudre ces trois crises sans un programme de rupture franc. Et ce programme de rupture, l'ossature, ça a été l'Union populaire. On a réussi à l'enrichir. Hein, il y a 650 propositions maintenant dans la nouvelle Union populaire écologique et sociale. L'enrichir des propositions du Parti communiste français, du Parti socialiste ou d'Europe écologie les Verts. Et on a maintenant quelque chose qui, quand on le relit, enfin, je l'ai lu récemment là, quand il est paru, ça donne vraiment de l'espoir. Il y a quelque chose de solide, voilà. Il y a un horizon, il y a des méthodes, il y a des moyens qui sont mis en face. Et donc je pense qu'on est en train, au début d'un processus de refondation de la gauche et de l'écologie politique.
Alors bon, on va pas les décliner, hein, c'est 650 mesures et 33 nuances, on en parlera peut-être après. Mais la retraite à 60 ans, c'est une des mesures emblématiques. Tout le monde s'est rallié à ça, c'était pas le cas au départ, hein, le Parti Socialiste notamment.
Non, mais c'est une mesure qui fait consensus au sein de la population. Les salariés français ne veulent pas travailler après 60 ans, ou veulent pas. Moi, si je prends ma retraite avec le nombre d'annuités, etc., ça nous mène à 67, 70 ans en fait. Hein. Donc le droit à partir à la retraite à 60 ans, en limitant la décote liée au nombre d'annuités, en réalité, c'est vraiment une revendication qui permet, et maintenant une proposition qui permet de rassembler tout le monde. Moi, j'ai toujours été frappé, je sais pas si vous avez été en Angleterre, mais ou aux États-Unis, de voir le nombre de personnes très âgées travaillant dans les aéroports, faisant des petits boulots, ramassant les papiers, etc. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus de système de retraite et qu'on peut plus partir à la retraite à un âge relativement décent comme 60 ans, la conséquence, c'est que nos anciens travaillent et font des tout petits boulots dans des conditions extrêmement précaires, et c'est pas la société qu'on veut. Et en plus, bon, du travail, il y en a, mais il faut le partager. Beaucoup de jeunes n'arrivent pas à trouver du travail ou trouvent que du travail précaire. Donc le partage du temps du travail, on va le redire aussi, partage par la baisse de 35 heures, enfin les 35 heures effectifs, et voire même les 32 heures, une sixième semaine de congés payés. Personne n'en parle, mais c'est dans le programme, hein, figurez-vous.
Et le SMIC à 1500 euros.
Oui, mais tout ça, c'est sur l'aspect partage du travail. Je pense qu'on doit aller vers une société qui produit moins, qui consomme moins et qui travaille moins. C'est le sens de l'histoire, en réalité.
Là, évidemment, les commentateurs sur les médias autorisés disent c'est absolument infinançable, toutes ces mesures, ça c'est un coût pas supportable.
Si, c'est un coût. Vous savez, c'est comme en 36, avant de venir dans le détail, mais quand on a donné les congés payés, les patrons disaient que c'était impossible. Enfin, c'était complètement utopique, c'était impossible. Les premières retraites, le premier système de retraite avant 45, c'était pareil, c'était impossible. Ceux qui détiennent l'argent et les capitaux disent toujours à ceux qui n'ont rien qu'ils ne peuvent pas partager, que c'est impossible. Donc non, les moyens, ils existent, évidemment. Pour ça, il faut faire revenir les cotisations sociales, parce que Hollande puis Macron n'ont pas arrêté de faire des cadeaux aux patrons. Les cadeaux, c'est quoi? C'est faire en sorte que les cotisations sociales qu'ils payaient avant, ils ne les payent plus. Et par ce fait, du coup, on a des déficits, que ce soit pour la branche maladie ou pour la branche vieillesse. Mais si on refait payer à la hauteur de ce qu'ils sont capables de payer les entreprises, les grandes entreprises surtout, en réalité, on remplit les caisses très vite. Et par exemple, une mesure très simple, hein, c'est l'égalité salariale homme-femme. Déjà, ça finance, en fait, la retraite à 60.
Le Emmanuel Macron avait un petit peu rétro-pédalé entre les deux tours sur la question de la retraite à 65 ans, hein, son projet, en disant ça sera 64 progressivement, etc. Vous pensez qu'il y a une détermination de ce gouvernement à...
Non, mais il est pieds et mains liés à des grandes puissances financières qui ont un intérêt immense à ça. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où la retraite, on allonge la durée de départ à la retraite, en fait, les gens vont partir quand même à 58 ans, 60 ans, parce qu'ils vont être licenciés. Et donc, pour pouvoir avoir une retraite décente, ils vont capitaliser. Et en capitalisant, ça veut dire que toute cette masse d'argent monstrueuse, c'est énorme la masse d'argent qui est dans la sécurité sociale ou qui est dans notre système de redistribution des retraites, elle ne passe pas par les assurances privées. elle ne permet pas de faire du profit à des entreprises. Et donc, ça les rend fous, les gens qui font du profit et qui ont plein d'argent. Ils voudraient pouvoir avoir accès à ce pactole. Hein. Et donc, c'est les très, très grands groupes de spéculation financière qui font une pression. On a beaucoup parlé de BlackRock, d'autres grands fonds d'investissement. Ils font une pression énorme sur les gouvernements pour pouvoir accéder à cet argent. Mais après, le jour où il y a une faillite financière, ben les retraités, ils ont plus de retraite. C'est pour ça qu'il faut surtout pas aller vers ça. Et je pense que Macron va essayer d'y aller. Mais néanmoins, ils ont toujours échoué à casser la retraite par répartition en France. Moi, je suis rentré en militance en 95, lors du grand mouvement des retraites. Ça m'a toujours marqué. Ils sont revenus à plusieurs reprises. Ils ont allongé, ils ont un peu dénaturé le système. Mais fondamentalement, ils y sont pas arrivés. La retraite à point, ils n'y sont pas arrivés. C'est pas à cause du Covid qu'ils ont abandonné, c'est parce que socialement et au Parlement, il y avait une résistance telle qu'ils ont dû renoncer. Je pense que la retraite à 65 ans, que nous soyons au pouvoir ou pas, nous les ferons échouer.
La NUP, vous êtes formel, ce n'est pas une soupe au logo. Enfin, je reprends volontairement l'expression de Jean-Luc Mélenchon, hein, qui était dans ce studio même, et qu'il a souvent utilisé en disant « il ne faut pas d'alliance bancale avec des mouvements de pur opportunisme ». Là, vous dites vraiment, il y a un accord sur le fond.
Oui, il y a un accord
sur... Vous avez réussi à convaincre vos camarades socialistes.
Ben, vous prenez la retraite à 60 ans, je pense que c'est un bon exemple. Et puis, vous prenez la réaction de François Hollande, la réaction de Manuel Valls, vous comprenez que les clarifications ont eu lieu, en fait. Fort, d'ailleurs, Olivier Faure a eu un courage que l'histoire devra lui reconnaître. En fait, les divisions au sein de la gauche... sur la grande question du néolibéralisme et de l'accompagnement du démantèlement de notre état social, ça traversait beaucoup les partis. Ça a traversé au moins le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. Et ce qui s'est passé, c'est que la ligne de rupture a été majoritaire avec les 22% de Jean-Luc Mélenchon et que finalement, on a réussi à recomposer autour de cette ligne de rupture. On n'entend plus Yannick Jadot. Voilà. Et on voit Carole Delga... Hidalgo et d'autres au PS qui sont fous furieux, en fait. Ça prouve bien qu'on a réussi à reconstituer et rassembler réellement non pas une soupe au logo, mais effectivement des forces politiques pour un objectif commun, et que ça a du sens.
Alors il reste quand même des désaccords que vous appelez, rebaptisez donc des nuances. C'est pas un peu hypocrite? C'est pas de la com', ça?
Non.
33,
non. Non, mais c'est toujours le. De toute façon, il y a toujours des désaccords. Même moi, j'ai des désaccords. Si vous voulez, je vais les livrer. J'ai un désaccord même avec le programme de l'Union populaire. Bon, même si je représente l'Union populaire.
Vous en avez trop dit. Lequel?
Lequel? Eh ben, la retraite à 60 ans. Moi, je suis toujours pour les 37 annuités et demie. Voilà, par exemple.
D'accord.
Parce que si on regarde bien, effectivement, si on est bon, mais effectivement, c'est beaucoup plus cher à financer, et donc il y a des équilibres à trouver. Mais on a tous les uns et les autres des nuances. La question, c'est est-ce qu'on est sur la même ligne de rupture pour la planification écologique, pour la justice sociale. Et puis à partir de là, après, heureusement, le Parlement va pouvoir retrouver son rôle. C'est-à-dire un Parlement, c'est des députés qui discutent, des groupes parlementaires, qui essaient de se convaincre pour élaborer les lois. Et ben, c'est très bien comme ça.
Alors quand même, je prends un point, pas le moindre, la question du nucléaire qui est assez centrale, justement, pour une bifurcation écologique que vous voulez mettre en œuvre. On le sait, le Parti communiste historiquement est très pro-nucléaire. Fabien Roussel, son candidat, l'a rappelé fortement pendant la campagne. Alors, quid du nucléaire?
Bah, pour le nucléaire, c'est une question qui n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'on peut se mettre d'accord, alors peut-être que le Parti communiste français ne sera pas d'accord avec ça, mais sur le fait qu'à terme, il faudrait se passer du nucléaire au vu des risques et du problème de l'extraction aussi du nucléaire. Hein. Moi, je rappelle toujours de ce qui se passe dans les mines d'uranium au Niger, où les populations vivent un enfer. Donc moi, je pense qu'il faut... Bon, on peut discuter, mais la question de la sortie du nucléaire, effectivement, moi, c'est ce que je défends, et c'est ce que nous défendons à l'Union populaire. Mais après, les modalités de cette sortie, et comment on organise le mix énergétique pendant l'intervalle, est pas si simple que ça à régler, en réalité. Quand on regarde comment on stocke l'énergie, à quelle vitesse, parce que tout va dépendre de notre capacité à baisser notre consommation d'énergie et de matière. Dans le projet de l'Union populaire, dans un des plans, on s'était donné comme objectif de diviser par 3 la consommation d'énergie primaire. Bon, mais c'est quand même quelque chose de très ambitieux. hein, divisé par 3 notre consommation d'énergie primaire. Donc pour ça, on ne sait pas si on va y arriver, à quel niveau on va y arriver, et donc on aura peut-être besoin du nucléaire dans le mixte, et c'est le cas, puisque même dans ceux qui veulent sortir du nucléaire, on prévoit de sortir à telle date ou à telle date ou à telle date, hein, et on a repoussé là. Donc je pense que tout ça voilà tout
mais qu'est-ce
tout
qui ça garantit que si la NUP est majoritaire, que Mélenchon est Premier ministre, qu'est-ce qui garantit que une fois de plus, par exemple sur la question du nucléaire, les objectifs vont pas être renvoyés à une décennie plus tard, hein, comme l'a fait Macron d'ailleurs, puisque son premier mandat il avait
vous pouvez nous faire confiance. On va vouloir vraiment aller vers cette sortie du nucléaire. Après, je pense que sur ces sujets-là, et c'est ce qu'on avait trouvé comme compromis finalement en 2012, il est peut-être pas inintéressant d'avoir une convention citoyenne. On l'a vu sur le climat, ça a très bien marché en réalité. C'est peut-être pas inintéressant d'avoir un référendum d'initiative citoyenne, un grand débat national, pour que les experts puissent s'exprimer, pour que les citoyens puissent comprendre tous les tenants et les aboutissants, hein, et qu'à partir de ça, eh ben, on arrive à trouver des solutions.
Une centrale sur deux est quasiment à l'arrêt actuellement. Oui. Le Tricastin, qui est à vol d'oiseau de Marseille, pas si loin que ça, est une des plus vieilles centrales de France. Et il y a un sujet.
Ah bah il y a un sujet, c'est pour ça qu'on est pour la sortie du nucléaire, il y a pas de doute là-dessus. Il y a un sujet, mais voilà, je pense que il y a un sujet, mais en réalité on est un peu accro à l'énergie facile en France, et doublement accro. Le monde est accro à l'énergie facile avec les énergies fossiles, et la France est en plus accro au nucléaire. Donc on a construit quand même tout notre modèle de développement, y compris nos chauffages électriques. Hein, qui fonctionne, on a, par rapport à d'autres pays, on a beaucoup de chauffage électrique, alors que c'est pas le principal mode de chauffe pour d'autres pays, parce qu'on a le nucléaire, et donc on avait l'électricité à bon marché. Et ben, il faut quand même repenser tout ça. Donc, il faut entamer cette bifurcation. C'est pour ça qu'on parle de planification. Et qu'il n'y a pas de on-off facile en réalité. Mais non, on a la volonté politique de sortir du nucléaire. Si ça fait débat avec nos collègues du Parti communiste français sur l'objectif final, eh ben il y aura un grand débat, puis ça sera tranché par référendum ou ça sera tranché par une majorité à l'Assemblée nationale. Nous verrons les modalités.
Je reviens, on fait des allers-retours un petit peu entre le fond, la forme, sur la NUP, les alliances. Alors évidemment, 42 hein, circonscriptions, par exemple, juste en PACA, 577 en France, il y a la théorie, il y a la pratique. Il y a des dissidences quand même qui apparaissent. Vous pensez que ça va tenir cet attelage? Je pense par exemple sur Marseille, dans la troisième circo, la sixième, Sophia Ossini, soutenue par les radicaux de gauche, une partie de la Fédération de la gauche républicaine socialiste, qui se présente face à la candidate Magali Ollagne, investie par la NUP.
Il y a 17 candidats dans la cinquième circonscription. Les législatives, ça devient le sport national. Mm-hmm. Bon, sincèrement, non, il y a des dissidences, mais elles sont, en ce qui concerne Marseille, relativement mineures. Je pense que les électeurs ne se tromperont pas. Il y a clairement le rassemblement très large de la gauche, hein, qui va de la France insoumise jusqu'au Parti socialiste en passant par le Parti communiste et ELV, c'est-à-dire qu'il y a toute la famille. Je pense que les électeurs ne se tromperont pas. Après, il se peut que dans certains endroits, il y ait des personnalités connues qui arrivent à, effectivement, changer un peu les choses et empêcher souvent un candidat de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale soit d'être au second tour, soit de gagner. Moi, j'engage quand même les électeurs à... on risque d'avoir une majorité qui peut se jouer à très peu de choses. Il y a un petit trou de souris pour qu'on ait la majorité absolue, 289 députés, puisqu'on est en tête dans les intentions de vote, et le second tour n'est pas du tout gagné pour Emmanuel Macron et pour Ensemble Résurrection. Non, c'est quoi?
J'avoue que ça m'échappe. Je crois que c'est pas Renouveau. Je confonds avec
Non, il y a Reconquête, Zemmour. C'est Zemmour, c'est Renaissance.
Renaissance.
Voilà. Bon, c'est pas gagné du tout pour Renaissance, mais par contre, on sait que ça va se jouer à peu de choses. Si on est devant, ça va se jouer à peu de choses. On peut pas se permettre de rater pour 2 députés, 3 députés. Donc, j'engage vraiment les électeurs à le jouer utile. Et là, pour le coup, c'est assez facile, hein, parce que il y a pas besoin de faire 36 calculs pour savoir quel est le vote utile dans ce cas-là.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
Donc une petite tradition dans cette maison, l'invité choisit une chanson, une musique, et vous avez choisi Jean Ferrat.
« plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
En quelques mots, pourquoi ce choix, ma France, de Jean Ferrat ?
Alors, bon, il y a déjà un choix très très personnel, parce que mon père la passait le samedi, en général tous les samedis, sur le vinyle, je me souviens encore comment ça craquelait. Et voilà, donc c'était la musique, voilà, c'était pour moi c'est quelque chose de très sentimental. Après, politiquement, je trouve qu'elle résume très bien, en fait, nos nouveaux rassemblements, c'est cette France-là, en fait, qu'on défend, et voilà, bon, bien sûr qu'il manque la composante écologie, on dirait, ça, là-dessus, ça vit.
Peut-être.
Peut-être, mais néanmoins, elle est très belle, et c'est ce récit, en fait, ce récit très important qui passe de la Révolution française à la Commune de Paris, à 36, 68, et voilà, et c'est cette France-là que nous voulons voir gagner, évidemment, le 12 et 19 juin.
Parfois, des commentateurs sont étonnés de voir beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge dans les rassemblements Mélenchon, moins de drapeaux rouges, enfin, et votre parcours politique témoigne de vos liens avec l'histoire d'une gauche assez internationaliste, et donc là il y a une évolution, vous sentez à l'aise dans cette revendication, je pense, de l'identité, alors là le méchant mot national.
Non, c'est pas ma tradition, c'est effectivement pas ma tradition politique, la revendication nationale. Moi, ce que je pense, c'est que ce que je défends dans la France des Lumières, c'est cette idée liberté, égalité, fraternité, cet universalisme-là. Celui-là, je m'en revendique. Le rôle de la raison aussi. Enfin, moi, je suis un rationaliste scientifique, et l'importance du rationalisme dans l'histoire et du rationalisme en politique, c'est aussi quelque chose dont je me revendique. Mais néanmoins, non, je suis pas forcément à l'aise avec la mise en avant forcément du drapeau français. Mais moi, c'est pas, voilà, c'est pas ma culture politique, parce que je suis assez internationaliste, et puis parce que de mon histoire, j'ai un grand-père allemand, hein, officier de la Wehrmacht, c'est quand même assez surprenant, et un autre italien, et une grand-mère espagnole, et une grand-mère française, ouvrière. Bon, bref, la France, c'est tout ça. Donc si le drapeau français est la représentation de tout ça, et bien effectivement, on peut en être fier. Mais il a souvent été aussi utilisé, et c'est l'ambivalence des drapeaux, on le sait bien, il a été utilisé pour d'autres choses, parce que la France, ça a été aussi un empire colonial, ça a été aussi des massacres pendant toute la décolonisation. Donc moi, je me revendique de la première France, pas effectivement de la deuxième. Donc il y a toujours cette ambivalence du drapeau, que moi, bon, mais voilà.
Bon, on se rapproche de Marseille avec donc sur la ville cette circonscription, des scores pour la gauche et Mélenchon. Mais si on fait l'addition maintenant avec les forces qui ont rejoint la NUP, très élevées, des possibilités sur cette ville. Vous chiffrez là sur les 7 circonscriptions.
4 gagnables, un peu plus difficilement. Ça ferait 5, ce qui serait énorme. Il y en a. En tout cas, en ce qui concerne la 7 et la 4 sont évidemment devraient être relativement faciles à gagner. Mais quand même, il faut toujours mener campagne. Hein. Je me méfie des pronostics basés juste sur des reports de voix. Et puis effectivement, sur la circonscription dans laquelle je suis, la gauche totalise 42% dans sa totalité. Donc on est très loin devant la Macronie. Donc si on arrive à être devant le soir du premier tour et loin devant, on devrait pouvoir l'emporter. Voilà.
On parlait de l'union, hein, de cette union des gauches et des écologistes. Sur Marseille, il y a quelque chose qui est assez étonnant. Alors, on a vu une photo circuler dans laquelle on vous retrouve, hein, lors du lancement de campagne de Mohamed Ben Saada, qui est le candidat de la NUP dans la troisième circo, et dont vous étiez allé le soutenir. Et là, le maire, hein, Benoît Payan s'est invité, et donc voilà, on vous y voit tous côte à côte, très souriants. Il y a Sébastien Barle aussi, écologiste ELV, sur cette photo. Et ça rappelle des souvenirs, hein, ceux d'une municipale passée où vous n'étiez vraiment pas tous alignés au même endroit, au même moment.
Non, ouais, je vous avais dit que c'était historique. Je crois que c'est la preuve de ça. Je pense que les étoiles se sont alignées et qu'effectivement, là, c'est une situation historique. Nous, on était très, très contents, en fait, que Benoît Payan vienne soutenir Mohamed Ben Saada. C'était pas du tout prévu. C'était une surprise. Je pense qu'il avait pris la balle au bon, parce que lors du communiqué de presse, de la conférence de presse, en fait, le lundi précédent, Mohamed Ben Saada avait, en répondant à une question, avait dit, si le maire veut venir, il est bienvenu. Et il est venu, et c'est très gentil de sa part, parce qu'évidemment, dans une campagne comme celle-ci, le soutien de l'ensemble de la gauche et du maire en particulier est un soutien qu'on apprécie.
Vous, quand le printemps marseillais se crée, hein, qui est la majorité composite, qui va permettre donc une alternance, une alternative à voir politique à Marseille, vous n'y allez pas. Vous êtes membre du pacte démocratique et vous n'y allez pas, parce que...
Alors non, c'est pas vrai.
Je me trompe.
Oui, vous trompez.
Vous n'y allez pas, en tout cas.
Si. Non seulement je suis signataire de l'appel dans Libération, vous pouvez vérifier au mois de juin, ouais, c'est ça. Et ensuite, effectivement, j'ai fondé le printemps marseillais avec Sophie Camard et d'autres. Et j'ai pendant jusqu'au mois de décembre, j'ai été membre de la, j'ai appelé ça le Parlement ou le comité D'accord. de direction du Parlement du printemps marseillais. Donc non, j'ai participé à cette dynamique. Le point de départ et où moi j'ai été un peu, c'est que je pensais au départ départ que ELV y serait. Bon, et après il se trouve que Sébastien Barle et la majorité de ELV n'y a pas été, donc ça a posé des soucis. Et ça nous a conduit à un certain nombre de débats aussi au sein de la France Insoumise. Et par contre, mon camarade et ami Mohamed Bensada, lui, était dans le Pacte démocratique. Okay. Et du coup, ce qu'on a décidé pendant l'été, c'était qu'il fallait réunifier tout ça, et que la France Insoumise tire dans le même sens. Et donc, on va pas refaire toute l'histoire, mais en gros, on avait comme point de convergence, donc entre ceux qui étaient dans le Pacte démocratique et ceux qui étaient déjà dans le Printemps marseillais, qu'il y ait un accord avec le Pacte démocratique, que le pacte est qualité, parce que c'était important, ça venait des états généraux des quartiers populaires, hein, vous vous en souvenez sûrement. C'est cette composante citoyenne qu'a pu aussi incarner par Kevin Vacher là dans la pré-campagne, elle, à mon avis, elle est très importante. Et donc, il fallait avoir un accord avec le pacte. Et puis, il y avait un autre point de désaccord, c'est que nous souhaitions que l'incarnation du Printemps marseillais ne soit pas n'émane pas du Parti socialiste. En fait, c'était ça, les deux points de clivage. Et il se trouve qu'on a plus ou moins échoué au mois de décembre sur ces deux points. En tout cas, il y avait un échec et j'ai quitté le Printemps marseillais à ce moment-là.
D'accord, je me suis trompé sur la temporalité. Là, de voir justement le Benoît Payan venir vous soutenir avant ces législatives, pour vous, c'est un atout ou c'est ça amène de la confusion?
Ah ben non, c'est un atout. Enfin,
clairement.
Il y a un accord qui va du Parti socialiste jusqu'à la France Insoumise.
On sait plus très bien s'il a sa carte ou pas.
Non, mais que le maire qui est au Parti socialiste, et bon, par ailleurs, Benoît Payan avait soutenu Benoît Hamon, si je me souviens bien. Enfin, bon, je vais pas refaire l'exégèse de l'ensemble des positions au Parti socialiste, mais ils sont tous voilà. Mais non, moi ça me choque pas et c'est plutôt une bonne chose.
Jean-Luc Mélenchon, rappelons-le, hein, était le député marseillais insoumis, donc il ne se représente pas. Pour vous, c'est vous auriez préféré qu'il rempile? Vous pensez que non, c'est plus son rôle, enfin c'est son choix, ou pour vous
Non, c'est son choix. Enfin, les deux auraient été bons. Enfin, moi, je pense que c'est son choix. Il y a un moment donné, c'était plus à cela qu'il aspirait, et puis il espère bien être Premier ministre, et je pense que on va tout faire pour.
Alors là, pour le remplacer, un parachutage. Alors le terme est pas très joli, mais c'est quand même ça. Manuel Bompard, qui était son directeur de campagne, qui est pour ceux qui suivent un petit peu les histoires et joue toujours un rôle assez central dans le mouvement. Donc à nouveau, c'est dans cette circonscription en or, hein, il faut le dire, qui est assez facile pour les gauches et les écologistes. Un parachutage.
Oui, oui.
Cette pratique, elle vous paraît légitime? Il faut bien trouver une place à...
D'abord, on habite... Les parcours de vie sont maintenant très variés. Moi aussi, je suis arrivé à Marseille, vous l'avez dit. Enfin, je suis arrivé à Avignon en 2005 et à Marseille en 2011 parce que ma femme travaille à la Timone. Et voilà, donc je suis un néo-marseillais aussi. Bon. Réellement, les parcours de vie sont multiples. Manuel Bompard veut s'installer à Marseille. C'est pas un parachutage au sens où il va venir et qu'il disparaît. Enfin, en tout cas, il s'y est engagé. Il fait une campagne de terrain. Il veut vraiment être un député de proximité qui vienne de Toulouse ou de Nemes ou d'ailleurs. C'est pas vraiment le problème. On parle pas de parachutage quand on demande une mobilité pour aller ailleurs. Donc voilà. Donc, et les députés sont, je le rappelle, hein, c'est des députés de la nation. Donc en réalité, c'est pas un problème. L'important, c'est qu'ensuite, ça soit des députés de la circonscription qui puissent rendre compte à la circonscription et aux citoyens de la circonscription du mandat qu'ils ont. C'est ça le principe de la Ve République. Hein. Mais c'est pas des élus locaux. Hein. On le rappelle toujours, mais les élus locaux, c'est les élus locaux, hein, municipaux, les conseillers généraux. Et puis c'est aussi les sénateurs, hein, qui sont l'émanation en fait des collectivités locales. Donc non, c'est pas choquant et je pense que c'est une chance pour Marseille parce que c'est quelqu'un de compétent et de bon.
D'accord. Après, ben justement, il dit moi, j'ai pas les mêmes responsabilités nationales que Jean-Luc Mélenchon, quoique avoir. Je serai un député de proximité. Est-ce qu'en creux, il y a pas. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ne s'est pas investi autant que certains espéraient qu'il le fasse au moment de la séquence des municipales, après le drame de la rue d'Aubagne. Certains espéraient qu'il soit moteur dans l'alternative politique de Marseille. Ça ne s'est pas fait vraiment comme ça.
Ça n'aurait pas été sain. Très honnêtement, ça n'aurait pas été sain. Par exemple, sur les municipales, heureusement qu'il n'a pas finalement... plus eu son mot à dire que ça. Il a essayé à un moment donné à je vous rappelle quand même qu'il a essayé de faire en sorte qu'il y ait entre les différentes composantes, hein, le pacte ELV et le printemps Marseille, il a essayé de réunir tout le monde et en disant aux uns aux autres, essayer de vous entendre. Mais c'était pas son, enfin voilà, c'est pas son objectif politique et c'était pas son rôle de travailler à la reconstitution de la gauche marseillaise. Enfin, c'est pas son projet de vie. Bon, son projet, c'était d'être député de Marseille, de s'inspirer de Marseille. Et il s'est inspiré de la ville dans ses propositions, dans son programme. Beaucoup de ce qu'il dit sur finalement la créolisation, je pense, viennent d'un processus de maturation et au contact de cette ville aussi. Bon, c'est quelque chose qui venait de plus loin chez lui. Mais il s'est vraiment inspiré de la situation marseillaise pour faire de la politique nationalement. Après, il a été effectivement peut-être insuffisamment présent pour les associatifs, voilà, pour les électeurs réellement qu'on rencontre. Tous étaient contents de Jean-Luc Mélenchon. Le score qu'il fait au premier tour, sur sa circonscription, clôt tous les débats, 55%. Et sa force a été effectivement sa faiblesse. Et quand on est un dirigeant politique national, qu'on préside un groupe à l'Assemblée, c'est pas possible. En plus d'être le député qui est là tous les samedis pour écouter les doléances des citoyens. Par ailleurs, en fait, d'autres ont fait ça en partie. Il y avait des écrivains publics, il y a eu des choses qui ont été faites sur cette circonscription par la France Insoumise. Donc, ça a été quand même, je pense, un procès pour essayer effectivement, et j'ai peu goûté effectivement les articles de Mars Actu et de Mediapart, et ils m'avaient interrogé, et j'avais peu goûté ça parce que je trouvais que c'était essayer de chercher finalement et le score, encore une fois, le score tranche, c'est-à-dire qu'à l'arrivée 55% des électeurs de sa circonscription ont voté pour lui à la présidentielle. Donc c'était un petit peu un débat de gens qui ne sont pas sentis assez reconnus, parce que, mais bon, maintenant passons à autre chose. Et je pense qu'effectivement Manuel Bompard n'aura pas ce même problème, parce que voilà, d'abord il est jeune, il s'installe, il veut s'installer à Marseille, et je pense que ce sera un député de proximité, et il n'aura pas ce souci, puisqu'il n'aura pas les mêmes responsabilités que Jean-Luc Mélenchon.
Bon, c'est la séquence où je vous ennuie. Il y avait effectivement une candidature sur cette circo, Kevin Vacher, le collectif Nos Vies, Nos Voix, avec un profil citoyenniste, on va dire. Hein, alors, pour être tout à fait clair pour nos auditeurs, il n'a pas été choisi et il soutient le candidat donc de l'ANUM, donc Manuel Bompard. Donc, hein, mais enfin, tout en disant, il y a quand même, on est une des composantes de ce mouvement-là et on n'est pas assez présent peut-être sur les circos. En tout cas, il faut faire en sorte que ces voies-là, ces parcours-là soient représentés. Vous êtes assez sensible à ce type d'argument de...
Non, mais je suis sensible à ces arguments parce qu'effectivement, c'est des militants qui ont travaillé notamment sur la rue d'Aubagne et tout ça. Mais des parcours militants, vous l'avez dit, c'est compliqué ces choses-là. Parce qu'en réalité, que ce soit moi ou que ce soit Mohamed, Mohamed était au PAC démocratique. Moi, j'ai été syndicaliste et je le suis encore jusqu'au 19 mars, sauf si je suis élu ou je devrais interrompre. Mais et j'ai été membre d'Attaque et militant anti-guerre, plutôt dans des réseaux associatifs. Donc, fondamentalement, dans les parcours militants, ça circule. Donc l'idée qu'il y ait une composante propre, qui serait une composante de citoyens propres, indépendamment des politiques, moi, mon avis, c'est pas prendre le problème par le bon bout. Donc maintenant, ils ont une légitimité. Kevin Vacher avait sa légitimité par son parcours politique. Hein. Kevin était militant du NPA, c'est là où je l'ai rencontré. Donc ça a été un militant politique. Il a été aussi militant à la France Insoumise. Donc en fait, on a des parcours les uns les autres. Il avait donc toute sa légitimité pour demander à essayer d'avoir la circonscription et d'être candidat. Ça s'est pas fait. Bon, voilà. Et puis, je trouve qu'il a eu la très bonne démarche de ne pas continuer. Et par contre, de s'insérer. On fait un meeting d'ailleurs sur le logement bientôt, là. Ça sera le dimanche prochain, dimanche prochain, sur le logement. Et c'est organisé par Kevin et il y aura tous les candidats à la NUP. C'est super.
Alors, la suite, vous me voyez venir peut-être, c'est une seule femme candidate à Marseille sur les 7 circonscriptions pour la NUP. Et évidemment, vos adversaires politiques qui vous loupent pas, donc Attira Combouzon, qui s'interroge où sont les femmes, parce que eux, inversement, donc Renaissance, on a maintenant leur nom, les nouveaux marcheurs, eux, ils présentent 5 femmes sur 7 sur Marseille. Donc là, il y a une photographie qui est pas vraiment favorable.
Oui, mais c'est une élection nationale. Enfin, de toute façon, si on ne respecte pas la parité au niveau des titulaires, on paye des amendes. Et on a respecté...
L'équilibre, il existe au niveau national.
Bien sûr, l'équilibre, il existe au niveau national. Et on a aussi, et ça c'est Emmanuel Bompard qui s'y est engagé au sortir des négociations, on s'est engagé à ce qu'il y ait autant d'hommes que de femmes en poste éligible. C'est ça qui est important.
Et alors, on pourra... à Marseille, femme et Magali Hollande, PS, elle est dans la circo la plus difficile.
Mais Marseille, ce n'est pas le centre du monde. Enfin, oui. C'est une élection nationale. On n'a pas obtenu. Il y a trop de femmes à Paris. Est-ce qu'on fait un scandale parce que toutes les femmes de la investies par la NUPES, tous les candidats investis par la NUPES sont des femmes à Paris presque. Non, voilà. Donc il y a des déséquilibres d'un côté et des déséquilibres de l'autre dans d'autres parties de la France. Mais c'est un faux procès. Enfin, c'est quand même assez fatigant. Et en plus, si on regarde l'Assemblée sortante, il me semble bien que on a un très grand nombre de députés femmes et d'ailleurs tout à fait mises en avant. Clémentine Autain, Danielle Obono, Mathilde Panot, la présidente de groupe, c'est une femme, c'est une jeune femme. Bon, là, il faut quand même être raisonnable. Donc, on a eu un problème, parce qu'effectivement, c'est mieux si, en plus, en région, il n'y a pas trop de déséquilibre. Mais le déséquilibre a été d'autant plus fort qu'il y a eu des accords avec les autres composantes. Et alors, en 13 jours, avoir un accord avec toutes les composantes, et en plus, avoir l'équilibre homme-femme dans toutes les villes de France, non, faut être raisonnable. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est de la polémique stérile. Et qui sert à masquer les vrais enjeux, alors que le féminisme est un vrai enjeu. On discute du fait que le ministre, on en a discuté tout à l'heure, qui est accusé de harcèlement et voire de viol, hein, peut-être, et ben il est toujours en place, qu'il démissionne tout de suite, et on pourra écouter les arguments de Cathy Racon-Bouzon.
Alors, en avant pour un enjeu, et ça serait dommage, une heure, ça passe vite, de vous avoir dans ce studio sans vous faire réagir à la question de la sécheresse. On est quand même dans un moment très particulier. Vous vous rappeliez dans un tweet récent que aucune sécheresse aussi étendue et qui a duré aussi longtemps ne s'est produite en Europe depuis le milieu du 18e siècle.
Oui.
Et donc on est en alerte sécheresse, voire plus.
Bah, malheureusement.
Alors que c'est le printemps.
Oui, mais malheureusement, moi qui suis scientifique et qui suis les rapports du GIEC et y compris les études scientifiques des climatologues sur la région, hélas, on n'est pas surpris puisque les climatologues ils nous avaient prévu ça. Ça fait déjà 10 ans, 15 ans qu'il y a des modèles qui montrent que en région méditerranéenne, on va avoir des sécheresses de plus en plus prolongées, notamment au printemps. Donc on le savait, on a tiré la sonnette d'alarme. Il faut agir. Pour ça, c'est simple. Hein, baisser nos émissions de gaz à effet de serre et arrêter de, puisqu'il faut s'adapter aussi, donc arrêter d'utiliser l'eau n'importe comment, et rien n'est fait. On continue à avoir des transports en commun. Là, je suis venu à pied. Bon, c'est assez agréable, une demi-heure de la plaine. Mais en réalité, on n'a toujours pas de transports en commun à la hauteur des enjeux au 21e siècle. Ils sont toujours difficilement accessibles. Essayez d'y aller avec une poussette. Essayez d'y aller avec un fauteuil roulant. Essayez d'y aller quand vous avez des béquilles. C'est pas possible. Non, tout ça n'est pas raisonnable. Donc il faut vraiment avoir une politique de transformation radicale et de bifurcation écologique, à la fois aller plus vers plus de sobriété, aller vers des énergies renouvelables. Tout ça, on sait faire. C'est pas comme si le scientifique est très en colère. Non, le scientifique est très en colère.
Parce que justement, on peut se dire...
Tout ça, on sait faire et on le fait pas, ça fait 20 ans.
C'est simple, c'est-à-dire... Parce que, justement, avec la technicité, souvent, il y a une résignation. Voilà, c'est foutu. Enfin, il y a un sentiment que, face à des tendances aussi lourdes, on est impuissant. Vous dites, non, on peut agir.
Mais bien sûr qu'on peut agir. L'exemple que je reprenais en réunion publique ce samedi, c'est d'abord quand on décide de faire quelque chose, l'humanité peut le faire et peut le faire très vite. On est passé de l'énergie hydro, enfin de l'hydroénergie, alors les moulins à eau, hein, qui faisaient au début de l'industrie, c'était des moulins à eau, hein, pour les tisseries, enfin les tisserands, des fils à coton et tout ça en Angleterre. On est passé de cette énergie-là au charbon pour des raisons capitalistiques en moins de 10 ans. Les historiens le remontrent très facilement. Bon, on a restauré les terrains de montagne dans toute la région en un siècle. Quand on s'en donne les moyens, on y arrive. L'humanité est capable. Donc, on a les techniques. On sait faire. Mais par contre, on continue d'avoir des appareils qui tombent en panne tout le temps, des jeans qui se trouvent au bout de 3 jours, des chaussures, c'est un peu... Voilà, obsolescence programmée, tout ça, parce que il faut qu'il y ait de la marchandise qui circule, pour qu'il y ait du profit qui se fasse, parce qu'il faut faire consommer les gens pour que certains puissent s'enrichir. Et à la fin, on a... Alors, le chiffre, c'est quoi? C'est 5 milliardaires en France qui gagnent autant que 40% des plus précaires. Et 20 milliardaires dans le monde qui gagnent plus autant que 3 milliards d'individus. Donc ça, on sait faire. Pourquoi on ne fait pas? C'est pas parce qu'on ne sait pas faire la résignation, mais c'est parce que ceux d'en face ne veulent pas le faire. ceux d'en face et ceux qui détiennent les moyens d'argent, ceux qui s'enrichissent, ceux qui ont des qui vont moi j'ai appris un jour quand j'étais à Avignon, me lancez pas sur la sécheresse, vous voyez, c'est un jour j'ai appris à Avignon, j'ai dit mais à quoi ça sert cet aérodrome? On a un aérodrome qui est financé par les impôts des Avignonnais. Mmh. Et on m'a expliqué que finalement, il y avait plein d'avions privés dans cet aérodrome. Et c'était les riches qui vivent dans ces coins-là, Luberon.
Hein.
Et ben, ils prennent leur avion le matin, ils vont faire leurs courses au bon marché, et ils reviennent en avion. Voilà, on vit dans cette société-là. Donc non, c'est parfaitement possible. Ça doit être interdit, point barre. On va pas faire ses courses en avion dans le 21e siècle quand le climat se réchauffe et que les Indiens ils crèvent sous 51 degrés. Donc non, c'est de la volonté politique. Et tous ceux qui vous disent le contraire, ben c'est des menteurs.
Et là, donc, en face, vos adversaires disent, marre des écologistes et de l'écologie punitive. Et donc, ils tapent sur le fait que c'est pas populaire, en fait, d'agir sur ces questions-là. Vous pensez que la bataille contre le réchauffement climatique et à l'échelle locale, enfin c'est des priorités. Dans votre circonscription, c'est quelque chose qui peut être entendu comme une priorité.
Eh ben, il suffit de discuter avec n'importe qui a une crise d'asthme en ce moment avec le pollen et la température et la pollution. Il y a la moitié des gens que je rencontre qui sont en train de tousser, qui ont des crises d'asthme, alors en plus d'avoir des séquelles du Covid. Donc non, les gens ont conscience quand même que c'est une catastrophe l'air pollué à Marseille. La gestion des déchets, on en parle pas. C'est n'importe quoi. Enfin, on peut pas trier ses déchets. C'est vraiment, faut être héroïque, hein. Parce que en général, tout déborde. Vous l'avez vu, j'imagine, comme moi. Mm-hmm. Ça déborde de partout. C'est impossible. Voilà. C'est pas parce que il y a pas assez de rotation et tout ça. Donc non, les Marseillais, je pense, en ont parfaitement conscience. Les jeunes générations en ont de plus en plus conscience. Donc, je pense que la bataille des idées, elle a été gagnée. Par contre, il y a une forme de chape de plomb parce qu'il y a cette résignation. Et ça, vous avez raison. Il y a une forme de résignation parce que on laisse sous-entendre que ça serait très compliqué. Et ben, c'est comme en 36. On nous laissait sous-entendre que c'était très compliqué les congés payés. Hein. Non, c'est pas compliqué.
D'accord. Vous dites la bataille des idées a été gagnée. Bon, si on prend la présidentielle, malgré le beau score de Mélenchon, bah déjà, il est pas au second tour. Et donc, beaucoup d'abstention, beaucoup de votes à l'extrême droite. Et une droite qui est toujours présente. Et puis, une majorité qui n'a pas dévissé. Donc, il y a quand même forte adversité. Il faut réveiller les gens. C'est pas simple.
Non, mais la bataille des idées, elle a été gagnée sur certains sujets. Sur l'écologie, en réalité, même avec des gens de droite avec qui vous discutez, le changement climatique, je me souviens encore d'une période avec Allègre, on était en pleine confusion, où c'était difficile. Bon, là, les gens, le changement climatique, c'est bon, ils ont compris. La crise de la biodiversité, les abeilles, ils ont à peu près compris. La question est sur la retraite à 60 ans, vous l'avez dit. Ils sont d'accord, ils sont contre la retraite à 65 ans, ils sont pour le SMIC à 1500 euros. Donc sur un certain nombre de mesures, en réalité, on est très largement majoritaire. Parce qu'une partie de l'électorat d'extrême droite est d'accord avec ces mesures. Bon. Et une partie de l'électorat de la droite populaire est d'accord avec ces mesures. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi complètement maintenant à traduire ça en majorité politique positive. Mais c'est notre projet avec le rassemblement de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. C'est que réellement, les citoyens s'emparent de ce nouvel outil et aillent voter les 12 et 19 juin parce que réellement, on peut avoir une autre majorité. Et une autre majorité qui permette de faire la transition écologique et qui peut permettre de faire la justice sociale.
Alors la machine infernale des sondages a repris, on connaît ça, vous avez été exposé à ça pendant toute la présidentielle. Et ce qui apparaît, c'est que... ben, ces sondages dont il faut se méfier totalement, on en est bien d'accord au Ravi. À la fois, vous annonce en tête la NUP au niveau des pourcentages, mais de par la mécanique électorale d'un scrutin majoritaire à deux tours, vous donne minoritaire ensuite au niveau de siège. Est-ce que ça aussi, c'est cette fatalité-là, cette annonce qui est faite d'un mécanisme institutionnel et électoral, d'une mécanique électorale qui pourrait empêcher un changement de majorité? Qu'est-ce que vous dites là-dessus?
Non, mais il y a deux choses différentes. Il y a des techniques qui sont pour essayer de connaître les intentions de vote. Bon, elles ont failli sur la présidentielle, hein, sur Mélenchon. En tout cas, il était à 22%. Dernières intentions de vote, il était à 18%. Donc ça, c'est une chose. Ces intentions de vote nous donnent en tête. Et ça donne quelque chose sur le premier tour. Mais sur le second tour, il n'y a aucun travail qui est fait. De toute façon, c'est que des projections. Et les modèles de projection dépendent de tas d'hypothèses. Et en réalité, en fonction des hypothèses, hein, on peut avoir une majorité NUPS ou une majorité de Macron. Donc certains instituts de sondage ont un certain nombre d'hypothèses pour projeter la suite, où ils prennent comme modèle de transition, finalement, le report des voix et ce qui s'est passé en 2017. Mais si c'est pas ce qui s'est passé en 2017, ça sera autre chose. Si les électeurs se mobilisent pour aller voter, eh ben, on aura une majorité pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Donc il y a vraiment, c'est pas un mensonge, mais il y a vraiment quelque chose de nature de frauduleux, de donner les deux choses. C'est-à-dire qu'évidemment, ils ont le droit de diffuser des intentions de vote. Très bien. Mais ensuite, ils doivent préciser que c'est pas des intentions de vote, les projections. Ça peut pas être des intentions de vote. Ils ont pas demandé aux électeurs ce qu'ils faisaient au second tour. C'est pas des sondages de second tour. Donc ils peuvent pas dire en réalité quelle sera la projection. Donc là, c'est quasiment frauduleux. Bah, c'est pour dire aux électeurs, à nos électeurs, de ne pas aller voter. Bah, nous, on leur dit, bah, si ils sont encore en train d'essayer de vous truander, allez voter.
Mélenchon, Premier ministre, donc c'est pas que de la com. Vous pensez qu'il y a une possibilité
Mais bien sûr qu'il y a une possibilité. Bien sûr. Il y a une possibilité, c'est effectivement un trou de souris, comme il y avait un trou de souris pour être au second tour. Mais on s'est aperçu que finalement, à 300 000 voix près, on n'était pas loin. Donc c'est une possibilité, et c'est surtout une possibilité, c'est pas le fait qu'il soit Premier ministre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse réellement pas perdre 5 ans de plus. 5 ans avec la retraite à 65 ans, 5 ans avec une politique au niveau écologique est pas suffisante. Donc c'est ça, non, c'est possible.
Et on va s'arrêter cette émission sur ces paroles-là.
Mais je vous remercie beaucoup.
Au mois prochain avec un autre invité. Bye bye.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.